Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots. Les mots. Les mots. Les mots sont sans importance. Les mots sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un premier extrait du roman de Helen Keller, Sourde, muette, aveugle. Ce livre extraordinaire, paru en 1903, a édifié des générations de jeunes adolescents. Il raconte l'histoire vraie d'une petite fille, Helen Keller, qu'une maladie a rendue à 2 ans, sourde, aveugle et quasi muette. Il me reste quelques impressions très vivaces de mes premiers ans, avant que je sois tombée dans les ténèbres d'une perpétuelle nuit. Mais j'ai connu aussi bien des joies et bien des chagrins d'enfants qui ont perdu aujourd'hui toute leur acuité. Bien des incidents du plus haut intérêt qui ont marqué les débuts de mon éducation ont disparu de mon souvenir, emportés par les quotidiennes émotions de grandes découvertes. Je voudrais bannir de mon récit toute chose ennuyeuse. Pour y parvenir, je m'efforcerai de ne retracer ici que les épisodes de ma vie qui me semblent les plus intéressants et les plus importants. Je naquis le 27 juin 1880 à Tuscumbia, petite ville du nord de l'Alabama. J'habitais jusqu'au jour où je fus atteinte de cette maladie qui me priva de la vue et de l'ouïe, une petite maison sans étage, composée d'une chambre carrée et d'une autre pièce plus petite où couchait la domestique. C'est une coutume constante dans les États du Sud de construire ainsi près de la ferme une petite maison annexe. Mon père se conforma, après la guerre civile, à cette coutume provinciale et c'est dans cette maison que ma mère et lui s'installèrent après leur mariage. Elle était complètement dissimulée sous la vigne, les roses grimpantes et le chèvrefeuille, et vue du jardin, elle avait bien plus l'aspect d'un arbre que d'une habitation. La porte elle-même en était d'ailleurs masquée par un rideau de roses thé, et tout alentour s'ébattaient les oiseaux-mouches et bourdonnaient les abeilles. Le bâtiment principal qu'habitaient nos gens était à quelques pas seulement de notre berceau de roses. On l'appelait « Ivy Green » parce que la maison, les arbres qui l'entouraient et jusqu'aux haies de clôture étaient enveloppés de beaux lierres anglais. Son jardin à l'ancienne mode a été le paradis de mon enfance. Souvent, même avant l'arrivée de mon professeur à la maison, je me plaisais à suivre en tâtonnant les haies de buis durs et guidé par le seul odorat, je savais trouver les premières violettes et le muguet. C'est là que j'allais me consoler après mes petits accès de colère, cachant mon visage rougi dans les feuilles et l'herbe fraîche. Quelle joie j'éprouvais à vagabonder, à me perdre dans ce jardin fleuri. Tout à coup, mes doigts tâtonnants reconnaissaient, à ses feuilles et à ses fleurs, la belle vigne, qui poussait ici, s'en allait recouvrir de son délicat feuillage une serre en ruine, là-bas, à l'autre extrémité du jardin. Ici également, grimpait la clématite, se suspendait le jasmin et croissait encore ces fleurs rares que l'on appelle « butterfly lilies » à cause de la ressemblance de leurs pétales avec les ailes du papillon. Mais entre toutes ces fleurs, les roses demeuraient ma passion. Jamais dans les serres du Nord, je n'ai trouvé des roses aussi belles que les roses grimpantes de chez nous. Elles pendaient en longs festons au-dessus de notre porte, pénétrant de leur parfum l'air ambiant, et quand aux premières heures du jour je les caressais, encore baignées de rosée, j'éprouvais à leur contact une sensation si délicieuse que je me demandais si elles ne ressemblaient pas aux aphodèles du paradis. Thank you. Mes débuts dans la vie furent ceux de tous les enfants. Et on aurait pu dire de moi, comme du premier-né dans toute famille, « Il vint, il vit, il vainquit ». Comme partout, on disserta longtemps sur le nom qu'il convenait de me donner. Grave question. On ne pouvait ainsi nommer à la légère le premier bébé. Mon père proposa de m'appeler Mildred Campbell, nom d'un de ses ancêtres qu'il vénérait, et s'en tint là. Enfin, sur le désir exprimé par ma mère, on adopta le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle, Hélène Everett. Mais mon père, trop ému, oublia complètement le second nom dans le parcours de la maison à l'église. Quand le pasteur le lui demanda, il se souvint seulement qu'on voulait me donner le nom de ma grand-mère et il répondit « Hélène Adams ». On m'a dit qu'au temps où j'étais encore au Mayo, je donnais déjà de nombreux signes de ma nature impétueuse et volontaire. Je m'efforçais d'imiter ceux qui m'entouraient dans tout ce que je leur voyais faire. À 6 mois, aux merveilles, je bégayais déjà, dit-on, « How you ?» et un jour, j'attirais l'attention de tous en criant « Ti, ti !» presque distinctement. Après ma maladie, je me rappelais encore un des mots que j'avais appris pendant cette première période de mon enfance. C'était « water » et ayant oublié tous les autres, je bégayais encore « wow, wow !» et je ne cessais de prononcer ainsi le mot qu'après avoir appris à l'épeler. On m'a raconté que je me mis à marcher à 1 an, le jour même de l'anniversaire de ma naissance. Ma mère venait de me sortir du bain et me tenait dans ses bras quand mon attention fut soudain attirée par des ombres de feuilles qui se jouaient sur le parquet, dans un rayon de soleil. Je me laissai glisser à terre et je courus presque vers l'illusion. Mon élan me fit tomber. Je me mis alors à pleurer pour que ma mère me reprît dans ses bras. Ces jours heureux furent de courte durée. Je pus jouir d'un beau printemps et écouter, charmé, le chant du rouge-gorge et de l'oiseau moqueur. Un été délicieux mit à mes pieds ses roses parfumées. Je vis l'automne dorer les bois. Hélas, bientôt vint le morne mois de février et avec lui la triste maladie dont je devais sortir aveugle et muette et qui allait me plonger dans l'inconscience d'un nouveau-né. Le médecin diagnostiqua une congestion aiguë de l'estomac et du cerveau et déclara que je ne survivrais pas. Un matin, cependant, la fièvre me quitta de bonne heure, aussi soudainement, aussi mystérieusement qu'elle était venue. Ce matin-là, il y eut beaucoup de joie à la maison, mais personne, pas même le docteur, ne se doutait encore que je ne verrais ni n'entendrais plus. Je m'imagine avoir conservé des souvenirs confus de cette maladie. Je me rappelle plus particulièrement la tendresse que me prodiguait ma mère quand elle s'efforçait de me calmer aux heures d'insomnie et d'agitation fiévreuse, et aussi l'horreur de mes réveils après un demi-sommeil plus fatigant que réconfortant quand je tournais du côté du mur mes yeux arides pour échapper à la lumière que j'avais tant aimée et qui me semblait plus terne de jour en jour. Mais à part ces souvenirs vagues, si ce sont même là des souvenirs, toute cette période me semble obscure et irréelle, comme un cauchemar. Je m'accoutumais peu à peu au silence et à l'obscurité dans lesquels j'étais plongée, et je finis par oublier qu'il en avait été autrement, jusqu'au jour où vint s'installer près de moi celle qui devait libérer mon esprit. Mais pendant les 19 premiers mois de ma vie, j'avais eu des impressions d'étendues vastes et verdoyantes, de ciels lumineux, d'arbres et de fleurs, et l'obscurité qui suivit ne pouvait balayer entièrement ces souvenirs de mon esprit. Quand une fois nous avons joui de la lumière du jour, tout ce qu'elle nous a permis de voir est devenu notre bien. Je ne puis me souvenir de ce qui arriva pendant les premiers mois qui suivirent ma maladie. Je sais seulement que j'étais, la plupart du temps, dans les bras de ma mère ou pendue à ses jupes, tandis qu'elle vaquait à ses occupations domestiques. De la main, j'étudiais tous les objets et je m'attachais à observer tous les mouvements autour de moi. De cette façon, je me rendis compte de bien des choses. Je ne tardais pas à éprouver le besoin de communiquer avec les autres et je commençais, dès lors, à m'exprimer à l'aide d'une mimique très simple. Je secouais la tête pour dire non, je l'inclinais pour dire oui. Le geste d'attirer vers moi signifiait « venez », le geste de repousser « allez-vous-en ». Désirais-je du pain ? Je faisais semblant d'en couper des tranches et de les beurrer. Si je voulais que ma mère fît une crème glacée pour le dîner, je faisais le geste de manœuvrer le congélateur, puis je me mettais à frissonner pour exprimer l'idée du froid. Ma mère réussissait à se faire comprendre de moi dans une foule d'occasions. Je savais, par exemple, quand elle désirait que j'aille lui chercher quelque objet et je montais l'étage en courant ou je me précipitais vers tout autre endroit qu'elle avait su me désigner. C'est à son amour pénétrant que je dois tous les instants de joie et de bonheur qui ont mis dans ma longue nuit comme des rayons de lumière. Je me rendais compte, d'une façon générale, de ce qui se passait autour de moi. À 5 ans, j'appris à plier et à ranger le linge blanc qui revenait de la buanderie, et j'y reconnaissais tout ce qui était à mon usage. En palpant les vêtements que portaient ma mère et ma tante, je savais si elles allaient sortir, et invariablement, je demandais à les accompagner. Quand il nous venait des visites, on réclamait toujours ma présence, et quand nos visiteurs prenaient congé, j'agitais la main de leur côté par un obscur souvenir sans doute de la signification de ce geste. Un jour, quelques messieurs vinrent voir ma mère. La vibration produite par la porte d'entrée qui se refermait et quelques autres bruits indistincts m'informèrent de leur arrivée. Une idée subite me passa aussitôt par la cervelle et je montai précipitamment l'escalier avant que quelqu'un eût songé à m'arrêter. Une fois dans ma chambre, je me mis en devoir de revêtir mon costume de visite. Debout devant la glace, ainsi que je l'avais vu faire à d'autres, je me répandis sur la tête de l'huile parfumée et me couvris le visage d'une épaisse couche de poudre de riz. Cela fait, je m'épinglai sur la tête un voile qui, me couvrant toute la figure, tombait en plis sur mes épaules et j'emprisonnai ma taille frêle dans une ceinture dont les gros nœuds laissaient pendre leur ruban jusqu'à la bordure de ma jupe. Ainsi attifé, je descendis pour contribuer à recevoir nos visiteurs. Je ne saurais aujourd'hui fixer l'époque où je m'aperçus pour la première fois que je différais des autres. Je m'en étais rendu compte cependant avant l'arrivée de mon institutrice. J'avais remarqué que ma mère et mes amis ne s'exprimaient pas comme moi par signe. Quelquefois, il m'arrivait de me placer entre deux personnes qui conversaient et de poser mes doigts sur leurs lèvres. C'est ainsi que je compris qu'ils avaient, pour échanger des idées, un moyen qui m'était inconnu. J'étais très affectée de ne pouvoir les comprendre. Je me mettais alors, moi aussi, à remuer les lèvres et je gesticulais avec une sorte de frénésie sans obtenir, hélas, le résultat désiré. Ces insuccès provoquaient en moi des colères et je frappais du pied avec rage et poussais des cris perçants jusqu'à complet épuisement. Quand j'étais méchante, j'en avais conscience, je crois, je savais bien, par exemple, qu'en donnant des coups de pied à Ella, ma bonne, je lui faisais mal, et lorsque mon accès de colère était passé, j'éprouvais comme un remords. Je dois cependant avouer que jamais ce sentiment obscur ne m'empêchait de retomber dans les mêmes fautes quand je désirais quelque chose qu'on me refusait. Nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans un panier 9, 10, 11, 12, elles seront toutes rouges.
Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast.
Les maudits sont importants.